Bonjour, nous revoilà pour une deuxième émission d'AP Radio en classe de seconde du lycée français du Caire.
Moi-même et Kenza allons vous présenter les 7 différentes rubriques au sein de cette seconde émission.
Alors, en premier lieu, nous allons parler du vélo. On a interviewé M. Olivier Rochat et M. Philippe Johannes sur leurs différents parcours autour du monde en vélo.
Ensuite, Kenza, Alia et Mouna vont interpréter une chanson d'Edith Piaf.
Puis après, Nicolas et Nadine vont vous parler du film La vie d'Adèle.
Ensuite, Jana va vous parler des chiffonniers et leur milieu de vie et en quoi consiste leur travail.
La rubrique suivante sera les nouvelles technologies qui sera présentée par Samy.
Ensuite, Hella va nous présenter la drogue Tramadol avec Carole.
Et pour finir, Claudia va nous donner plusieurs conseils pour l'histoire des arts pour les élèves de 3e.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Alors, bonjour, pour la première rubrique de notre deuxième émission, on a eu le plaisir de rencontrer Monsieur Olivier Rochat et Monsieur Philippe Johannes, qui sont deux
grands sportifs,
oui, cyclistes. Alors, on a rencontré Monsieur Olivier Rochat, qui a une association qui s'appelle Bike for Africa. C'est une association
pour aider les enfants africains et pour l'éducation et pour construire des écoles. Et qui a un site, justement, Bike for Africa, où on peut donner ou contribuer à ce projet en donnant de l'argent
et en devenir parrain de cette association. Le site c'est bikeforafrica.ch et il a aussi une page Facebook.
On a Monsieur Johannes qui fait un projet qui chaque vacances avec son vélo il parcourt de nombreux pays comme la Birmanie,
la Chine, le Laos. Et d'autres.
Et on a eu le privilège de pouvoir leur poser des questions et essayer de découvrir un peu leur projet. Et M. Johannes a un site où il publie des photos de tout son parcours.
Et pour M. Rochat, vous pouvez faire des... Si vous voulez être parrain de cette association, vous pouvez aller sur le site et faire part de vos donations. C'est une association légale, donc l'argent que vous donnez, ça va directement à l'association. Vous devrez remplir un formulaire, puis l'envoyer par mail ou par la poste.
Chaque kilomètre est rémunéré de 1 centime.
1 centime.
Et avec tout le voyage qu'il fait, ça, en fin de compte, ça fait une somme importante. Et
c'est pour les enfants, alors...
Donner. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, monsieur Olivier, vous pouvez nous présenter votre projet?
Oui, alors bonjour. Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 24 ans et je viens de Suisse, de Lausanne, plus précisément la partie française de la Suisse. Alors, mon projet, j'ai une association Bike for Africa avec laquelle je récolte des fonds pour venir en aide à la construction d'une école pour les petits enfants au Togo, en Afrique de l'Ouest. Alors, pour ce faire, j'effectue un voyage à vélo d'une durée maximale de 2 ans. C'est assez vaste, mais disons, je suis parti de Lausanne le 15 septembre pour rejoindre le Cap, dans un premier temps, en Afrique du Sud. Mon itinéraire, je suis parti de Lausanne à travers l'Europe centrale, Budapest, l'Europe de l'Est, et puis j'ai rejoint l'Afrique par la Turquie. Et puis, donc, là, je me trouve au Caire et je vais continuer en direction de l'Afrique de l'Est, donc le Soudan, l'Éthiopie, etc., jusqu'en Afrique du Sud. Le principe de mon association, c'est qu'en fait, je suis parrainé à raison de 1 centime au kilomètre par les personnes qu'ils souhaitent. Alors, ça paraît peu comme ça, mais c'est beaucoup de personnes et beaucoup de kilomètres. Donc, ça fait pas mal d'argent. Par exemple, 1 centime de francs suisses, ça correspond à peu près à 80... presque 1 centime d'euro, quoi.
Et vous, monsieur Johannes?
Oh ben moi, je suis beaucoup plus modeste. Bon, je me présente, vous connaissez peut-être. Donc, je suis professeur ici au lycée et je fais occasionnellement du vélo. Hein. Je ne suis pas au projet donc, de M. Rochat. Donc, mais comme je suis prof, donc j'ai pas mal de vacances. Et à chaque vacances, donc, je mets mon vélo dans l'avion et je vais faire un tour dans tel pays, en Afrique, en Asie. Donc, là, dernièrement, à tout ça, j'étais faire un tour en Ouganda. Les vacances de juillet-août, je suis parti donc au Japon. Je suis descendu de Tokyo jusqu'à Nagasaki, qui est donc dans l'île sud du Japon. Et de là, j'ai pris un ferry. Je suis remonté donc à Busan, qui est au sud de la Corée du Sud. Et je suis remonté jusqu'à Séoul. J'aurais aimé poursuivre jusqu'en Corée du Nord, mais bon, l'entrée est assez problématique, impossible.
Et pour chacun, c'est la passion du vélo qui vous a motivé à faire ces projets
ou La passion, oui. C'est pas forcément la passion, c'est plus un moyen de voyager. Hein. Quand on voyage en voiture, ben, y a plein de choses qu'on ne voit pas, quoi. Ou si on voit des choses, on se dit, ben mince, ouais, c'était pas mal, j'aurais pu m'arrêter, mais bon, pris dans l'élan, ben, on s'arrête pas et puis on revient pas en arrière. Et donc, on voit beaucoup plus de choses et puis on rencontre plus facilement les gens. Hein. Les gens vous voient, ça les interpelle, quoi. Hein. Donc, on crée beaucoup plus facilement de contacts. Et puis on est obligé aussi donc entre chaque ville où on peut trouver un endroit pour s'héberger, donc un hôtel, ben on se retrouve en campagne et ma foi, ben, soit qu'on dort dehors ou ben les gens vous prennent en pitié puis ils viennent vous revoir et ils vous invitent chez vous quoi.
Et donc vous avez trouvé certains dangers pour se loger ou pour...
Non, j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours été très bien accueilli, même dans des pays qui paraissent a priori présenter des dangers, on a toujours, on véhicule souvent de fausses idées sur tel pays, mais en général on a peu de problèmes.
Vous partez en groupe ou vous êtes...
Non, je pars toujours tout seul.
Je suis aussi seul. Je rencontre pas mal de monde sur ma route, des amis, notamment comme ici au Caire ou à Addis Abeba en Éthiopie, etc. quoi, mais je pédale seul.
Et vous avez rencontré des risques ?
Tout le monde est effrayé par l'Afrique, mais c'était en Europe. C'était la deuxième semaine de mon voyage en Croatie. J'ai fait juste le nord de la Croatie. Et j'ai rencontré des Roms, donc des gitans. Et là j'ai une mauvaise rencontre, ils ont essayé de me voler un peu, j'ai dû un peu les pousser, me débattre, c'était un peu la faute à pas de chance, ça arrive quoi.
Et malgré ces incidents, vous avez fait des rencontres marquantes dans certains pays ou bien...
Oui, j'ai fait des rencontres à peu près dans chaque pays, enfin, au début je suis allé assez vite, quand vous pédalez vite, voilà, vous êtes un peu fermé sur vous quoi. Mais en Roumanie, ouais, notamment, j'ai fait des belles rencontres avec des gens qui sont très pauvres mais très riche aussi, j'ai envie de dire, au niveau de l'accueil. En Bulgarie aussi également, c'était vraiment un peu la dèche où ils vivaient, mais c'était des belles rencontres. Ouais.
Et vous voyagez avec votre matériel ou bien c'est...
J'ai tout, là je suis totalement autonome, j'ai autant pour m'alimenter que pour dormir, que pour mon vélo.
Vous prenez quoi exactement avec vous ? Pas exactement.
Alors en gros, j'ai une tente. En Afrique, je l'utilise un peu moins parce que c'est un peu plus dangereux quand même dormir assez proche des routes. Mais j'ai une tente et tout le matériel qui va avec. C'est une petite tente, hein, mais j'ai un réchaud à essence. Et puis, j'ai également pour tout le matériel du vélo. Donc, j'ai par exemple, j'ai plusieurs chaînes. Pour économiser, parce que je change de chaîne tous les 1000 km et je les remets après. Ça permet d'économiser, en fait, la cassette. J'ai différents outils de vélo et puis quelques fiches... De mécanique ou ce genre de choses quoi. Puis quelques habits pour moi, mais ça là en Afrique t'as pas besoin de grand chose, t'achètes un t-shirt pour rien du tout, donc tu... j'irai plus léger en Afrique.
Et vous fixez un budget avant de partir ou bien c'est aléatoire?
Oh, de budget, bon, disons avec la carte bleue ça facilite bien les choses, mais bon, je vis avec pas grand chose, hein. Moi, comme matériel, je prends pratiquement rien. Hein. Je prends allez, 2-3 slips, 2-3 t-shirts. et bon, pour tenir 2 mois, ça suffit amplement. Quoi. Et, bon, je fais une petite lessive de temps en temps. Et autrement, non, je vis très très léger par rapport à M. Rochat. D'ailleurs, ton prénom. Olivier, excuse-moi. Voilà, bon, j'ai très peu de choses. Hein. Je voyage très très léger. J'ai aucun matériel. Si, une pompe et de quoi réparer si je crève. Mais autrement, j'ai vraiment, vraiment rien. Quoi. Même pas de quoi faire manger, pas de tente. Je dors toujours sur la belle étoile. J'ai un sac de couchage. Bien que des fois, dans certaines régions, je ne prends même pas de sac de couchage. Quoi. Je dors comme ça.
C'est quel pays qui vous a plu le plus ou...
Qui m'a plu le plus, peut-être l'Ouzbékistan, oui. L'Ouzbékistan, bien que ça soit un peu mal terminé, parce que je me suis cassé la figure, et avec 20 points de suture, un traumatisme crânien, et oui... Une épaule cassée, et voilà.
Comment vous avez fait pour rentrer?
Ah, ça a été... sur le moment, c'est... Oui, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Bon, déjà, je me suis bien cassé la figure. Et sur le coup, ben, j'ai cru que c'était beaucoup plus grave que ça, quoi. Hein, donc, j'avais juste une épaule cassée, et puis un léger traumatisme crânien, quoi. Et puis, ma foi, ben, on ramasse au bord de la route, hein, et on m'a mis dans un coffre de voiture, hein, comme une valise, et on m'a ramené dans un dispensaire. De là, on m'a ramené dans un hôpital, mais bon, hôpital, n'a d'hôpital que le nom, et puis on vous recoue comme ça, à froid, et voilà. Et puis après, ben, j'ai pris un taxi, je suis remonté jusqu'à la capitale, et puis de là, j'ai essayé de rentrer en France, parce que j'ai pu faire quand même. Mais on arrive toujours à se débrouiller.
Et vous ne trouvez pas de problème aux frontières des pays ou...
Non, non, non. Pas du tout. Là, c'est là que moi j'ai vraiment un sentiment de liberté parce que les gens, c'est vrai, effectivement, les passagers frontières, on est toujours tendus, on se demande comment ça va se passer, les douaniers, bon, des fois il y en a qui sont plus ou moins rugueux, quoi, de contact. Et le fait qu'on arrive en vélo, il y a quand même une forme de respect. Et ça, je le ressens beaucoup, quoi. J'ai vraiment ce sentiment de liberté, j'arrive, j'ai le sourire, quoi. Et puis je change de pays, je change de. Ouais, le fait de traverser une frontière, c'est très... Ouais, une qui m'avait beaucoup plu, c'était la frontière entre le Laos et la Chine. À un moment où on disait la Chine, on n'y rentre pas comme ça. Et le fait de pouvoir y rentrer en vélo, ça m'a donné ce sentiment de liberté. Quoi. Puis comme j'aime à dire, bon, je suis libre. Quoi. Libre comme le vent, et le vent me pousse là. Je vais là où le vent me pousse. C'est...
Donc, on a vu que vous travaillez avec une association. Est-ce qu'on peut aider cette association d'une manière ou d'une autre, ou bien c'est individuel?
Oui, alors... Présenter l'association. Ouais. Donc, avec mon association, donc c'est chez mon association Bike for Africa. Donc là, après, si une personne souhaite me parrainer, elle peut me contacter sur mon site ou sur Facebook. Et puis là, ça, c'est un par parrainage, en fait. Donc, on envoie un contrat, elle est signée. Et après... Il faut me parrainer pendant tout le projet. Vous avez un suivi aussi. Vous recevez ce qu'on appelle les cahiers de Bike for Africa qu'on envoie à tous les parrains. Donc par étape, la première c'était Alexandrie en Égypte. La deuxième ce sera Addis Abeba, etc. Donc là je fais un retour sur mes aventures. Après vous pouvez, donc ça c'est en devenant parrain. Sinon vous pouvez aussi être membre de l'association comme membre de toute association. Oui. Quoi. Vous payez juste une cotisation annuelle ou alors directement venir en aide à Togo to Children en versant un don. Quoi. Là, vous trouvez tout sur Internet.
Okay. Est-ce qu'on peut vous rejoindre en vélo ou c'est...
Il faut me demander, quoi. Il y a moyen, mais si on me contacte avant, ouais.
Okay. Comment vous avez eu l'idée de créer cette association? C'est par passion ou...
Moi, j'avais la passion du vélo et je voulais aller en Afrique à vélo depuis toujours. Et puis, il y a 2-3 ans, avec mon métier, donc je suis pâtissier, j'ai rencontré pas mal d'étrangers qui venaient travailler en Suisse pour gagner un peu plus que dans leur pays. Et ça m'a confronté un peu à une misère que les gens de mon pays ne se rendent pas compte. Tous mes collègues étaient étrangers et tout. Et je me suis dit que, voilà, moi, je voyageais pour... Enfin, je gagnais ma vie pour partir et eux partaient pour gagner leur vie. C'est assez, voilà, et je me suis dit que voilà, j'allais faire de mon voyage mon rêve, venir en aide un peu d'une manière simple, quoi. Je sais pas, simplement, je fais mon voyage, mon rêve comme j'ai envie, mais j'en retire quelque chose pour essayer de financer un projet pour construire une école, quoi, ce qui peut être intéressant. Oui.
Et vous avez des projets finalisés, finis?
On a une école qui s'est finie l'hiver dernier au Togo. Donc, avec l'argent de... J'ai pédalé 2 ans, déjà. Mais je pédalais sur mes jours de congé, après le travail, surtout dans les Alpes, quoi. C'était plus local, c'était pas un voyage. Donc là, j'ai récolté quand même 13 000 euros en 2 ans, et on a pu construire les latrines et la citerne de la première école. Et il reste un peu la moitié, il reste en argent pour une deuxième école et un orphelinat.
Et vous comptez continuer ce projet ou bien...
Je vais déjà aller au bout de mon voyage. Et puis après, je pense que je vais me poser un peu.
Vous avez fait combien de kilomètres en vélo depuis le début de votre voyage?
Depuis ce voyage, 6400.
Et vous?
Je ne les ai pas comptabilisés. Moi, je fais quoi, 2000 kilomètres pendant mes vacances. Si je cumule les voyages...
Vous comptez aller où les vacances prochaines de Noël?
Justement, faire un bout que va faire Olivier, à savoir aller à Khartoum depuis le lac Nasser. Donc, ceci en février, donc il y a un peu moins de 1000 km, donc en une quinzaine de jours, c'est largement faisable, quoi. Ça me laisse le temps de m'arrêter, de voyager, de regarder. Mais si, bon, je ne pars que 15 jours. Partir 2 ans, c'est une autre aventure, hein, parce qu'il y a des moments de solitude quand même. On a besoin de retrouver des gens un peu de chez soi, hein, surtout dans des pays où y a la barrière de la langue, hein. Bon, même si la langue n'est pas vraiment une barrière, mais on a besoin de retrouver des gens de chez soi, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée force de caractère, et je trouve que Olivier bien du courage de se lancer dans une telle aventure.
Poser une dernière question.
Oui, ça vous est déjà arrivé de manquer votre famille ou de vouloir rentrer?
Oui. Après, c'était tellement quelque chose de très fort que je voulais aller en Afrique à vélo que c'était impossible de rentrer pour moi, sauf si vraiment, enfin, je suis pas débile, si je me casse un truc, si ça devient vraiment craignos, je vais rentrer, quoi. Mais au début, ouais. En Bulgarie, quand il pleuvait, quelques moments qui étaient proches du début, en fait. Je m'attendais pas, je pensais que ça viendrait plus tard. C'est venu très au début. Et après, vous partez et vous prenez une vie nomade, et puis vous êtes dans votre voyage, quoi.
Et comment ça s'est passé en Égypte, en Eric Sondré?
Alors, l'Égypte, en fait, je suis arrivé en avion depuis Hatay, mais j'ai pas eu de bol, donc j'ai arrivé de nuit à 3h du matin et il y avait du brouillard, donc l'avion a atterri au Caire. Et comme j'avais réservé une chambre à Alexandrie, je voulais quand même y retourner, et puis j'étais attendu au Caire, mais seulement à la fin du mois, donc je voulais pas passer un mois au Caire, voilà. Donc je suis retourné à Alexandrie en taxi, soi-disant payé par Turkish Airlines, mais à la fin le taximan nous a demandé de l'argent encore. Donc c'était un peu mal fini, je me suis retrouvé avec mon vélo. Donc le vélo, il était emboîté dans un carton pendant le voyage, j'ai dû le monter au milieu de la ville. L'entrée, c'était chaotique. Je savais vraiment pas quoi penser de l'Égypte. Au début, tout le monde me demandait de l'argent. D'un coup, il y a un jeune homme qui m'a aidé. Il m'a montré mon hôtel, on a pris le taxi et tout. Il m'a payé le taxi, il est parti, il a disparu. Et je sais pas pourquoi. Pendant 2 heures de temps, finalement, il m'a rien demandé, alors que d'autres me demandaient des sommes énormes pour rien. Enfin, et puis après, ça s'est un peu tassé. Je suis parti d'Alexandrie, j'ai fait des belles rencontres. Ouais. Les Égyptiens sont des gens très, très, très chaleureux, très ouverts. Au début, je ne savais pas trop, parce que je sais que voilà, je suis blanc, je suis seul. On va un peu demander de l'argent, donc des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais je me rends quand même compte qu'il y a l'immense majorité des gens sont quand même hyper généreux. Souvent, on m'a flûté. Quand je suis arrivé au Caire, j'étais un peu perdu. D'abord, on a partagé un moment ensemble. Ensuite, ils m'ont montré la route. Les gens, ils se déplacent pour moi, des fois, ils me demandent rien en retour, quoi. Donc, c'est des belles rencontres en Égypte. C'est pas facile, il y a beaucoup de militaires. Je me suis fait peut-être contrôler 10 fois en 3 jours.
Vous organisez votre voyage avant de partir, ou le chemin et tout?
Bien sûr, c'est un grand itinéraire. L'Afrique, c'est pas les médias occidentaux, ils nous montrent une mauvaise image de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas que ça, mais c'est aussi certainement le continent le plus dangereux à voyager seul. Mais il faut savoir où on va. Rien qu'en Égypte, il y a des régions stables et d'autres pas. Je suis allé au canal de Suez, c'était très bien, mais il y avait des contrôles militaires. Je conseillerais pas un cycliste d'y aller parce que c'est pas drôle. Enfin, c'était pas dangereux. Hein. D'autres régions, proches de la Libye ou le Sinaï, c'est très dangereux. Le Soudan, où je vais aller par la suite, c'est des gens extraordinaires, les Soudanais, mais il y a un génocide au Darfour. C'est tout proche de la Centrafrique et du Sud-Soudan qui sont, il ne faut même pas penser y entrer, quoi. Donc il faut savoir où on va aller. On ne peut pas aller en Afrique sans itinéraire au préalable.
Et vous avez une préparation physique avant de partir ou bien
Disons, j'ai pédalé 33 000 km ces deux dernières années en travaillant à 100%, c'est-à-dire 9 heures par jour. Je pédalais pour aller au boulot, je pédalais un peu... Voilà, c'était mon moyen de transport pour économiser l'argent pour mon voyage. Je me déplaçais qu'à vélo. Je faisais 50 km par jour pour aller au travail de nuit. Donc oui, je me suis entraîné, oui et non, parce que c'était mon quotidien. Mais je ne me suis pas forcé à le faire, je le fais parce que j'aime ça.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... Des nuits d'amour à ne plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Bonjour, c'est Mouna Misri et je vais vous parler de La vie en rose, chantée par Edith Piaf. C'est une chanteuse française très connue, elle est née en 1915 et morte en 1963 à l'âge de 48 ans. La vie en rose a été créée par Edith Piaf avec l'aide de Henri Coutet et a été composée par Louigny et Robert Chauvigny. Cette chanson a été enregistrée en 1946. De nombreux artistes ont repris cette chanson en différentes langues, comme par exemple Louis Armstrong et plein d'autres. Maintenant, Alia va vous chanter la reprise par Louis Armstrong.
Hold me close and hold me fast, this magic spell you cast, this is la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose.
Bonjour, Nicolas et moi-même, Nadine, allons vous présenter aujourd'hui le film d'Adèle de Abdellatif Kechiche. Ce film a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes 2013. Il est sorti en octobre dernier. Nous avons assisté à sa projection en salle et nous voulions partager notre ressenti.
Ce film est d'une durée de 2h57, avec la participation de Léa Seydoux, qui joue le rôle de la jeune femme Emma, et Adèle Exarchopoulos, qui joue le rôle du personnage principal.
Mais tout d'abord, laissez-moi vous donner un avant-goût de l'histoire. Et je laisse maintenant la parole à Nicolas.
Adèle est une fille qui ne se pose pas de questions, elle sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle fait la rencontre d'Emma, une jeune femme qui lui fera découvrir le désir et lui permettra de s'assumer en tant que femme et adulte. Mais croyez-vous vraiment que cette histoire d'amour sera vraiment ce qu'elle imaginait? Nadine, je te laisse maintenant parler pour donner ton opinion.
Ce film est vraiment passionnant malgré des scènes osées un peu trop longues à mon goût. C'est assez rare de trouver à l'écran une histoire d'amour entre deux femmes. Cela ressemble à une initiation amoureuse.
Pour conclure, si vous n'êtes pas choqué par les scènes osées, vous pouvez le voir entre amis. Ou sinon, vous pouvez aller voir le nouveau film sorti récemment qui s'appelle 50 Shades of Grey.
Il s'agit d'une rubrique que je présente moi, Jana, sur une sortie qui m'a beaucoup touchée et intéressée. Donc, accompagnés de nos professeurs de français et histoire, nous sommes allés visiter le quartier des chiffonniers au Mokattam, au Caire, dans le cadre de notre programme de géographie sur le développement durable. Nous sommes ensuite allés visiter l'APE, l'Association pour la protection de l'environnement, et nous nous sommes promenés dans les rues étroites du quartier pour enfin visiter la grande cathédrale de Mokattam. L'APE est une ONG égyptienne créée en 1984 par Sœur Emmanuel, qui a eu l'idée de mettre en place un centre de recyclage dans le but de donner plus d'autonomie aux femmes les plus démunies du quartier. Pendant notre visite, nous avons pu observer plusieurs réalisations de projets, entre autres celui du recyclage du papier. Les feuilles utilisées sont mouillées dans une grande baignoire, ensuite mélangées avec du carton à l'aide d'une machine offerte à l'association il y a plusieurs années. Ensuite, elles sont moulées, séchées et réutilisées. Ce travail est très artisanal, manuel et prend une journée entière. Nous avons été étonnés de voir que le matériel utilisé est très simple et ordinaire, mais les feuilles ne redeviennent pas comme avant, elles sont transformées en cartes de vœux et en sacs de cadeaux par exemple. Grâce à ce travail qui est maintenant dirigé par Sœur Sarah, des écoles ont été mises en place en 1984 pour les enfants des travailleuses. Des soins sont également dispensés aux femmes qui travaillent dans l'association ainsi qu'à leurs enfants grâce à l'argent récolté par leur vente. Après cette sortie agréable et notre entretien avec les travailleuses, nous avons réalisé à quel point la création de cette association a donné de l'indépendance aux femmes. Elles sont très enthousiastes et n'abandonneraient ce projet pour rien au monde. Nous nous sommes finalement un peu perdus dans les rues du quartier pour arriver à cette immense cathédrale qui sera peut-être au sujet d'une autre émission. Merci.
Bonjour, je suis Samy, je suis ici pour vous présenter la nouvelle rubrique concernant les nouvelles sorties technologiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau système d'exploitation de Windows 10, encore un système d'exploitation, me direz-vous, mais moi je pense qu'il faudrait revoir les critiques avant de juger et connaître un peu plus le système d'exploitation. Alors je vais d'abord vous en parler. Le 21 janvier 2015, Microsoft tenait une conférence afin d'annoncer la sortie du prochain système d'exploitation Windows 10. Afin de réparer les erreurs et faire oublier la déception des, des utilisateurs de Windows 8 et le dernier OS peu riche en applications. Microsoft annonce que lors de la première année, Windows sera gratuit et la migration vers cette version de Windows se fera sans avoir à réinstaller les logiciels. Windows 10 ne nécessitera pas d'abonnement peut-être et peut-être utilisé plus facilement. Il y aura le retour du menu démarrer pour un nouveau design. Aussi, il sera possible pour les joueurs PC qui ont des amis joueurs sur Xbox de jouer avec eux et de streamer aussi les jeux sur Xbox One et sur PC ou tablette avec Windows 10. Il semblerait que Windows 10 PC sortira en automne 2015 et la version mobile à la fin de l'année. Le prix n'a pas encore été dévoilé pour l'année d'après, mais là, il semblerait aussi qu'il y ait une dernière chose à savoir et l'annonce du premier casque holographique qui affiche des images dans l'espace et appelé HoloLens. Son prix et sa date de sortie n'ont pas encore été dévoilés. D'après moi, Windows 10 a un avantage, c'est la facilité pour supprimer les différents onglets actifs. Car il y aura un bouton spécial qui affichera toutes les fenêtres ouvertes et qui permettra de les fermer en un clic ou en plusieurs clics. Cela dépend des pages que vous voulez garder. Il y aura aussi la suppression de Internet Explorer pour un nouveau système de recherche appelé Spartan qui sera plus rapide et plus sécurisé. Je pense que c'est tout. L'avantage qu'a Windows 10 pour son lancement, c'est le fait que la première année sera gratuite et que jusqu'à la prochaine mise à jour. Et c'est tout. Et la rapidité du processeur et voilà. Pour l'automne 2015, sur la version PC. Et pour les versions mobiles, ce sera la fin de l'année.
Bonjour, nous sommes Carole et Ala. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'usage de la drogue. Nous allons plus nous baser sur la drogue appelée tramadol, qui est récemment devenue une des drogues les plus répandues en Égypte. Le tramadol est à l'origine un médicament qui, en général, supprime ou atténue la forte douleur. Les médecins prescrivent une dose très faible qui varie selon la douleur. L'inconvénient, c'est qu'elle provoque une dépendance. Plus on en prend, plus on a besoin. Il entraîne des effets indésirables comme des nausées, des vomissements, des sueurs, des maux de tête, etc. La consommation du tramadol en Égypte est devenue incontrôlable. C'est la drogue préférée parmi la classe ouvrière. Le tramadol est utilisé pour pouvoir travailler de longues heures sans ressentir de la fatigue, comme le font les chauffeurs du transport public. Cette drogue est importée de Gaza vers l'Égypte et plus généralement vers tout le monde arabe. Il est déclaré par un auxiliaire médical que chaque semaine, il y a 3 ou 4 cas d'overdose, la plupart d'entre eux concernant de jeunes hommes.
Ce dernier nous affirme aussi que la plupart de ces personnes veulent oublier leurs problèmes et le tramadol les aide temporairement. À cause de la pauvreté généralisée en Égypte, de nombreux Égyptiens fabriquent le tramadol chez eux pour le vendre. Le chômage est l'une des principales causes du stress et d'usage du tramadol et de la drogue en général. En accès libre en Égypte, le tramadol est échangé dans les pharmacies contre un billet de 5$, ce qui équivaut moins de 4€. Plusieurs victimes de cette drogue incontrôlable témoignent de cette situation concernant l'approvisionnement et l'usage du tramadol. Elles le déconseillent fortement car, d'après leurs expériences, elles affirment que d'une part ça déchire le nez et de l'autre ça détruit la gorge. Malheureusement, l'usage du tramadol a permis la mort de nombreux jeunes et la destruction de plusieurs familles égyptiennes.
Bonjour, moi c'est Claudia. Je suis maintenant en seconde et j'avais envie de donner des conseils sur l'épreuve d'histoire des arts. L'année dernière, on était perdus, l'épreuve avait changé et on était complètement à la plaque. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni dans le déroulement. Je vais juste vous parler du projet personnel et de l'oral. Donc pour l'oral, vaut mieux être dans un groupe de 2 ou 3. Vous devez être confiant, sûr de vous, montrer que vous savez de quoi vous parlez. Les professeurs, peu importe leur nom, vont tout de suite le remarquer et apprécier vous écouter. Et vont vous aider et vous faire sentir bien pour vous donner une bonne note. Pour le projet personnel, vous devez faire quelque chose qui va vous démarquer des autres. Essayez de faire quelque chose d'original, comme une petite vidéo, un tableau. Essayez de le mettre en relation avec un sujet de tous les jours et la problématique donnée. Moi, personnellement, j'ai mis en relation un sujet qui est l'abus d'alcool chez les adolescents et l'a fait dans une petite vidéo de Blanche-Neige. J'espère que ça va vous aider et bonne chance. Bonjour, moi c'est Claudia, je suis maintenant en seconde et j'avais envie de donner des conseils sur l'épreuve d'histoire des arts. L'année dernière, on était perdus, l'épreuve avait changé et on était complètement à côté de la plaque. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni dans le déroulement, je vais juste vous parler du projet personnel et de l'oral. Donc pour l'oral, vaut mieux être en groupe de 2 ou 3 pour être plus confiant. Vous devez être sûr de vous, montrer que vous savez de quoi vous parlez. Les profs, peu importe leur nom, vont tout de suite vous remarquer et vous apprécier. Et ils vont vous aider à vous sentir bien et pour essayer de vous donner une bonne note. Pour le projet personnel, vous devez faire quelque chose qui va vous démarquer des autres. Essayez de faire quelque chose d'original, comme une petite vidéo, un tableau. Essayez de le mettre en relation avec un sujet de la vie de tous les jours et la problématique donnée. Moi, personnellement, j'ai mis en relation l'abus d'alcool et le Blanche-Neige, qui était le thème de l'année dernière. Donc, j'ai pris la version originale de Blanche-Neige et j'ai changé la pomme en mettant une bouteille d'alcool. Et puis après, j'ai dit comment ça pouvait affecter la vie des jeunes. Donc, j'espère que ça va vous aider. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à demander les secondes de cette année. Et bonne chance pour votre épreuve.